Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour.
Bienvenue,
Nicolas.
Professeur à Noma Business School, Guillaume Dard, bonjour. Bonjour. Président de Montpensier Finance, votre micro n'est pas branché, visiblement, Guillaume. Il faut peut-être prendre celui qui est là, j'ai l'impression. Ah si, c'est bon, ça y est, c'est bon.
Bonjour.
Voilà, professeur, président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Bonjour, Dany Lang.
Bonjour.
Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord, membre du Manifeste pour l'Industrie. Un mail d'auditeur que j'ai reçu hier, Gilles. Gilles, il écoute l'émission, il est très agacé d'avoir des attaques répétées contre les retraités. Alors, il me l'a écrit hier. « Nous ne sommes pas des nantis », dit-il. Voilà, tout le monde, visiblement, affirme Gilles, je suis surpris, ne bénéficie pas de l'abattement de 10% de réduction pour frais professionnels dans sa déclaration d'impôt. Il précise qu'il y a une cotisation maladie de 1% supplémentaire pour les retraités, ce qui est vrai, on l'avait déjà dit ici. J'en sens beaucoup de réactions de retraités qui s'énervent quand on explique qu'il serait normal que le partage de la facture du redressement des comptes publics soit pour tout le monde. Bon. Et puis aussi une autre réaction que je voulais vous lire.
Juste au demeurant.
Oui, Gilles,
je suis d'accord avec Gilles.
Vous êtes d'accord avec Gilles sur le fait qu'il ne faut pas mettre les retraités.
On est venu.
Juste ça, et après on y va, et je vous donne la parole tout de suite. C'est Erza qui a réagi à la proposition de Gilles Berset de remonter la TVA dans la restauration.
Ah oui.
Voilà, Erza explique que ça fait 9 ans qu'elle est dans la restauration, ou il d'ailleurs, elle, et 9 ans qu'elle est sans salaire tous les trimestres. Voilà. Elle n'est pas riche et elle ne peut pas se permettre...
Non, dans la restauration, c'est des métiers extrêmement précaires, y compris pour les patrons.
On y va, Guillaume. Éric Coquerel dit « La France ne doit plus se financer sur les marchés, c'est une tyrannie, il faut que la BCE finance le pays comme avant 73. »
Oui, enfin, il dit surtout, puisque j'ai lu l'interview attentivement, il faut remonter les impôts tous azimuts.
Aussi.
Alors, ça n'est pas très nouveau pour Éric Coquerel. Ce qui serait inquiétant, c'est que on voit qu'il explique dans son interview qu'un certain nombre de députés de plusieurs partis l'écoutent. Et donc ça m'a fait penser à la chose suivante. J'ai lu récemment chaque pays a une espèce de devise, une phrase devise. La nôtre, on la connaît, égalité, liberté, fraternité. J'ai regardé à peu près les devises de 70 pays. Il y en a aucune où il y a le mot égalité. Souvent, on trouve prospérité, bonheur, développement. On est le seul pays. Et c'est ça qui... Et donc là, on est au cœur de votre question. C'est que ce qu'on sent dans l'interview de M. Coquerel, c'est qu'il dit des phrases du type « le CAC 40 qui ne profite qu'à certains ». C'est-à-dire qu'on est toujours un peu sur le mythe des 200 familles de 1936.
Ouais, il dit même qu'il coûte cher à la France.
Voilà, c'est ça. Alors que les grandes entreprises du CAC 40, la plupart, c'est vous qui le dites à chaque fois, Nicolas, leur résultat se fait...
À l'étranger.
Oui, bon.
D'accord. Et après, donc, 8 euros sur 10.
Il y a à la fois ce sentiment que la propriété... Au fond, c'est le refus de la propriété privée, c'est-à-dire que dire l'entreprise appartient à la collectivité, ce qui est pas une exactitude. On est en Europe, il y a la liberté, on a quatre libertés fondamentales, la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Donc il faut avoir cette vision européenne. Et donc ce qui est très inquiétant dans le discours d'Éric Coquerel, c'est que, si avoir beaucoup d'impôts étaient la recette du succès, la France serait en tête, puisque nous sommes en tête déjà de l'imposition dans le monde entier. Donc, si le couple dépenses publiques et impôts très élevés étaient la recette, ça serait, et ça n'est pas le cas. Et je rappelle au passage que le modèle américain a énormément de défauts, donc je ne vais pas le défendre, mais je faisais une étude récemment, le PIB par habitant entre la zone euro et les États-Unis, il est dans quel rapport, à votre avis, Nicolas ?
Ah, c'est considérablement dégradé au détriment des Européens, mais j'ai plus le rapport précis.
On a toujours été en retard. On a perdu énormément de terrain depuis la crise de 2008 et on reperd du terrain depuis la crise du Covid et c'est 1 à 2. C'est-à-dire que c'est à peu près 80 000 dollars par habitant aux États-Unis. Pour 40 000 dollars en Europe, ça veut dire que le niveau moyen de PIB par habitant en Europe, il est égal à celui de l'État le plus pauvre des États-Unis, c'est l'Arkansas ou le Missouri.
Je précise, quand vous dites qu'on a le record d'impôts, on a le record de prélèvements obligatoires. Je précise, c'est important, c'est parce que dans les prélèvements obligatoires, on inclut l'ensemble des cotisations qui financent le modèle social. Mais on a le record mondial des prélèvements obligatoires.
Toutes les statistiques,
oui, oui.
Quand vous allez sur une base de données et que vous appelez ça impôt, on vous sort tout.
Oui,
hein, donc il n'y a d'accord. que nous qui ayons cette discussion sémantique.
Alors. C'est bon. C'est bon. Alors, on reviendra hein, sur l'idée que ce serait la BCE et non plus les marchés qui financeraient le pays. Vous voulez réagir à ce que disait Guillaume Dard?
Oui. Alors, moi, je ne suis pas la France insoumise, je le précise.
Je vous ai jamais dit que vous étiez la France insoumise.
Oui, non, mais la fois dernière, on m'a dit que j'étais pire.
On va vous écouter, Dany.
La communiste révolutionnaire.
Oui, non, mais j'avais d'ailleurs dit à Fergan que c'était complètement too much. Et en plus, je vous connais et je sais exactement.
La parole est à la défense parce que, d'ailleurs, dans les sujets aujourd'hui, vous verrez que là, effectivement, je vais défendre l'interview d'Éric Coquerel, non pas parce que c'est Éric Coquerel, mais parce que je trouve que ce qu'il dit n'est pas inintéressant. Je n'ai pas lu les mêmes choses, notamment sur le retour au mode de financement, que je placerai d'ailleurs avant 92 plutôt qu'avant 73. La loi de 73, Pompidou-Rothschild, a compliqué le financement des dépenses publiques par la voie monétaire. Mais il faut quand même rappeler que messieurs Chirac et Fourcade, en 75-76, ont financé la relance par voie monétaire et par le circuit du Trésor. Ça, je pense fondamentalement que ce n'est pas une mauvaise idée, qu'on en est loin aujourd'hui. Oui, on va être en désaccord.
Non, mais allez-y.
Je pense fondamentalement que ce n'est pas une mauvaise idée, parce que ça nous mettrait à l'abri, dans l'absolu, des caprices des marchés financiers qui ont souvent des demandes contradictoires. Notamment, ils nous demandent plus de croissance et puis en même temps, ils demandent la baisse des dépenses publiques. Donc, c'est pas très compatible. Donc, on pourra en reparler. Mais ce mode de financement précédent, qui a été celui, je le rappelle, des pays capitalistes jusque dans les années 70, non pas des pays communistes... c'était un mode de financement qui, à mon avis, était plus...
Pays communiste, si, c'était pareil. Ouais.
Par définition.
Oui, enfin... Allez, vous pouvez quand même pas mettre sur le même plan les pays capitalistes pendant les 30 glorieuses et les pays de l'Est. Dans l'interview, moi j'ai lu des choses intéressantes. J'ai lu que sur le principe, il n'était pas non plus ce monsieur pour des hausses d'impôts, mais qui préférait les hausses d'impôts aux baisses de dépenses. Oui. Or, les baisses de dépenses aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté se plaindre que les États-Unis vont beaucoup mieux que la France alors qu'ils ont fait repartir leur économie avec des politiques budgétaires extrêmement massives. Hein. Biden, c'est plusieurs milliers de milliards qui ont été injectés dans l'économie, et notamment en matière de politique industrielle.
Mais c'est 15% de dépenses publiques en moins, les États-Unis.
Mmh. Oui, je sais bien.
Ce n'est pas le même niveau.
Attendez, ceci étant dit,
55%
si on regarde...
de dépenses pour la France, non, mais... 40% aux États-Unis.
Non, mais j'entends bien, mais si on prend la dépense publique française... Or, tout ce qui est retraite, cotisations sociales, etc., on est à peu près au même niveau que les Américains. Or, justement, on est à un moment où on en a besoin. C'est pas le moment de refaire de l'austérité, ni par la dépense publique, ni par l'impôt.
Bon, vous êtes donc favorable à l'idée qu'on agisse plus sur les recettes que sur la dépense.
Totalement, mais non, je serais pas favorable ni aux impôts, ni... aux baisses de dépenses. Ceci étant dit, les hausses d'impôts qu'il évoque, c'est le retour de la flat tax. Désolé, la flat tax, c'était Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose sens.
L'exit tax,
que j'ai toujours défendu, et je l'ai défendu contre, justement, beaucoup de gens de gauche à l'époque.
D'accord. Éric Coquerel dit qu'il faut taxer les rachats d'actions, les superdividendes, il faut remettre l'exit tax, remonter la flat tax, cette fois-ci, sur le capital, le prélèvement forfaitaire unique à 30%, et s'attaquer au crédit d'impôt recherche. Nathalie Janson, ce serait une bonne idée de refaire financer l'État par la Banque Centrale Européenne. Objectivement, ça fait rêver. Moi, le quantitative easing, si ça pouvait être un mode de fonctionnement permanent, je vous rappelle la remarque d'un commerçant à côté de chez moi qui me dit « Ah, je voulais vous poser une question, monsieur Dose. On me dit finalement que la Banque Centrale peut tout faire. Mais pourquoi je travaille et pourquoi je paye des impôts ?» Et elle avait un fond de clairvoyance, la question.
Non.
Alors, Nathalie.
Effectivement,
je comprends en tout cas pourquoi il me la posait, parce qu'il entendait dire qu'évidemment, on était dans un moment où la Banque Centrale, pas de problème.
Oui, le problème, c'est que ça génère des conséquences qui ne sont pas toujours, comme Bastiat le disait bien, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit pas.
Mais,
et le problème du financement, effectivement, l'achat massif de dettes provoque effectivement des distorsions à la fois sur les marchés au niveau des taux d'intérêt, mais aussi au niveau de ce qu'on finance. C'est-à-dire que si la Banque Centrale finance ça, elle détient pas d'autres titres. Bon, pour ce qui est de la monétisation de la dette, bien évidemment, moi, c'est pas quelque chose que je trouve très, très intéressant, d'autant plus que ça a quand même été à l'origine de l'inflation monétaire pour voilà pour tous ces épisodes, hein, puisque c'est un moyen d'assurer la dépense publique sans passer par effectivement un verdict de marché. Ceci dit, de tout temps, enfin. Au niveau historique, là, il faut savoir que la dette publique, elle a été achetée. Alors, si on prend le cas de la France, c'était fortement les banques. Mais à ce moment-là, effectivement, l'État devait eh bien plaire en termes les banques devaient avoir envie d'acheter ces titres pour qu'elles puissent être financées. Et puis ensuite, effectivement, avec le développement du marché financier, on est passé au développement du marché. Voilà, c'est l'histoire, elle est comme ça. Maintenant, la monétisation de la dette, c'est effectivement, ça a été très promu après les années 30. Donc, c'était pas du tout quelque chose d'une évidence pour beaucoup. Par contre, elle est toujours, la monétisation de la dette, c'est toujours faite pendant les épisodes de guerre, puisque là, il faut effectivement s'assurer que la dette soit financée pour pouvoir pour financer ces guerres. Et c'est souvent à ces occasions qu'on les a eues, et c'est invariablement le même résultat, c'est-à-dire une hausse de l'inflation. Donc la monétisation de la dette, c'est l'inflation.
Alors Guillaume Dard, là-dessus, sur ce point, mais
votre
on va revenir peut-être sur les...
Je comprends très bien pourquoi...
Ah mais moi je comprends pourquoi il me disait ça.
Pourquoi il posait la question. Oui. Mais votre commerçant, il a un bilan. Hein, et donc, une banque centrale, c'est un bilan. Si elle achète à son passif, c'est-à-dire d'où vient l'argent, ce sont les billets... émis, pour simplifier, et votre argent sur votre l'argent de tout le monde sur leur compte en banque. Et à l'actif, où est l'argent? Si la banque centrale met intégralement ses actifs dans des dettes qui ne correspondent à aucune production, c'est-à-dire que si au fond on dit on donne de l'argent à tout le monde, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir confiance dans la monnaie. Parce que si vous achetez des choses qui n'ont aucune valeur, on va dire le commerçant, il a son actif et puis il achète des trucs qu'il ne vendra jamais, il va faire faillite. Et la banque centrale ne fait pas faillite parce qu'elle peut émettre, simplement les gens se disent « Oh, mais j'ai pas envie d'avoir de la monnaie », si la monnaie, elle correspond uniquement à de la dette de gens qui ne repayeront jamais. Je vois dans vos yeux que c'est... assez complexe.
Non, mais c'est complexe, mais je vois ce que vous voulez dire.
Mais en fait, ça se passe.
Perte de confiance dans la monnaie, perte de valeur de la monnaie.
Et Nathalie l'a bien dit. Et première, parce qu'en fait, c'est même pas les années 30, c'est Première Guerre mondiale. Oui, toutes les banques centrales sont obligées de financer, qu'elles soient allemandes, françaises ou anglaises, elles vont financer les dépenses de guerre de chacun des pays. Qu'est-ce qui se passe à la sortie de la guerre? C'est là où on va avoir l'hyperinflation
allemande.
C'est là où tous les Français qui avaient des emprunts, qui avaient placé en emprunt, ont été ruinés. Le franc a dévalué dans des proportions incroyables dans les années 20, on l'a oublié. Le dollar était monté, pour simplifier, à 50 francs, alors qu'historiquement, il est à 5 francs. Donc l'Allemagne, c'était l'exemple extrême. La France a été terrible, et l'Angleterre aussi. Donc, quand la Banque centrale se met à émettre de la monnaie sans contrepartie réelle économique, sans aller jusqu'à l'exemple du Zimbabwe ou de l'Argentine, ou au Venezuela, c'est toujours ça. Et bien sûr que les banquiers centraux, ce sont un peu les garants du système, parce que ce qui est pire pour un banquier central, c'est que tout d'un coup, sa monnaie vaille rien. C'est ce qu'on disait au gouverneur de la banque centrale allemande, enfin de la Reichsbank. Il dit, mais qu'est-ce qui vous a pris d'émettre des billets de 100 milliards de marques? Il dit, c'était parti, on pouvait plus rien y faire et fallait bien travailler.
Alors, est-ce que je peux réagir?
Non, je veux que vous réagissiez, parce important. Que là, on explique de manière, parce que c'est complexe, mécanisme de monétisation de dette et les conséquences que ça peut avoir. L'histoire, objectivement, d'Annie Lang a été rappelée par Nathalie et encore par Guillaume à l'instant. C'est indubitable l'effet d'une monétisation massive, au-delà du fait que ça déresponsabilise totalement la sphère politique.
Je ne suis pas pour la monétisation massive, soyons clairs. Il y a du vrai dans ce qui a été dit.
Dans ce que dit Éric Coquerel, c'est de la monétisation.
Non, c'est le circuit du trésor d'avant 73 qui fonctionnait. Hein, on parle quand même d'une période où l'économie française fonctionnait beaucoup mieux
qu'aujourd'hui. Avec des budgets en équilibre.
Avec des budgets en équilibre. Justement, et depuis qu'on a donné notre dette au marché financier,
ils ne le sont plus. Beaucoup moins de dépenses publiques.
Ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus depuis qu'on a donné notre dette.
Ils ne sont plus quoi, pardon ?
Les budgets sont en déséquilibre. Depuis qu'on a refilé le financement de la dette au marché financier.
Faites le lien entre les budgets dans le rouge et le fait qu'on a changé le mode de financement du Trésor.
Je ne dis pas que c'est la seule cause.
C'est historiquement vrai.
Mais ça y contribue.
Historiquement vrai.
Le fait qu'on puisse émettre, au fond, vous adorez raconter que l'Agence France Trésor, elle est formidable, elle peut lever plein d'argent.
Elle l'est.
Elle l'est. Bon.
Mais est-ce que je dis le contraire?
Bon.
avant 86, moi j'ai assisté à la première émission d'OAT. Pour la première fois, hop, vous étiez, c'était dans une petite salle à la Caisse des dépôts.
1986, vous dites ?
Ouais. Monsieur Jaffré, il se met à tous les banquiers viennent, et il fallait, c'était la première adjudication à l'hollandaise de dette. Vous disiez à quel prix vous étiez prêt à acheter la dette française, je simplifie. Il est allé derrière avec un petit Macintosh, il a fait le prix moyen, il a dit voilà, il y a la dette. Et c'était parti. Alors qu'auparavant, pour emprunter, comment est-ce que l'État français se finançait ? Il se finançait de deux façons, en partie par la Banque de France et de l'autre côté par des emprunts qu'il fallait placer. Vous étiez un grand emprunt en disant qui en veut en France et les banques vendaient de l'emprunt. Mais si les gens ne voulaient pas d'emprunt, il y avait la Banque de France, mais la Banque de France était sérieuse, elle disait non, pas plus, et donc il y avait une contrainte budgétaire. Effectivement, les marchés, là Dany, un très très bon point, les marchés ont facilité, pas que pour la France, mais pour la plupart des États, le fait qu'on puisse tirer au fil de l'eau sur les marchés. Alors évidemment, c'est un prix, parce que de temps en temps, quand le marché, comme l'a dit aussi Dany, quand le marché n'en veut pas, il n'en veut pas. C'est ce qui passait pour l'Italie ou pour la Grèce. Et chaque fois, pour l'instant, la France étant quand même parmi les grands pays, loin d'être le meilleur élève, mais pas non plus le pire, elle arrive à placer. Mais ce qu'on ne sait jamais, on l'a vu quand même en Angleterre, au Royaume-Uni, quand tout d'un coup le nouveau budget n'a pas été apprécié, tout d'un coup, ça a bloqué sur la dette.
Et pourtant, dans un pays où la dette est garantie par la Banque centrale, ce qui n'est pas le cas dans la zone euro. Alors que ça devrait être le cas, ça calmerait les choses. Juste un mot sur ce que vous disiez. J'ai quand même un point de désaccord. L'hyperinflation allemande, c'est de l'histoire, mais l'hyperinflation allemande des années 20 n'est pas liée qu'à l'émission monétaire. Vous avez aussi le facteur qu'on était dans un pays avec des salariés extrêmement puissants et un patronat extrêmement têtu. Donc là, on a une boucle prix-salaire qui s'est déclenchée en Allemagne, certes qui est partie d'une situation d'émission monétaire excessive, je ne dirais pas ça souvent, mais en Allemagne, c'est vrai, mais on s'est retrouvé avec une boucle entre les prix et les salaires, parce que quand les salariés demandaient des hausses, ils les obtenaient, et les patrons qui ne voulaient pas rogner sur leur marge répercutaient ça sur leur prix. Donc, les années 20, c'est aussi un patronat très puissant et très têtu, et des salariés trop puissants et trop têtus. N'oublions pas ce facteur qui a contribué à la boucle prix salaire en Allemagne dans les années 20.
L'intelligence, on avance. Mais c'est passionnant ce que vous venez de raconter là, sur le mécanisme de monétisation.
Une boucle prix salaire, elle se maintient parce qu'il y a justement un excès de monnaie. Sinon, elle ne peut pas continuer. Donc, c'est tout. L'excès monétaire, c'est un prérequis pour qu'elle puisse se développer, la boucle prix salaire. Et pour justement rebondir, juste conclure sur cette histoire de marché financier, c'est pareil. En fait, les marchés financiers, la différence avec la création par la Banque centrale, enfin la monétisation par la Banque centrale, c'est qu'un marché financier ne crée pas d'inflation. C'est des transferts d'épargne. C'est-à-dire, il y en a ceux qui ont un surplus, qui achètent effectivement la dette parce que comme elle est reconnue, dans les pays où elle est bien gérée, elle est reconnue comme un actif sûr. Eh bien, il y a des pays qui ont une grande appétence. Il y a des peuples qui ont une grande appétence pour leur dette publique parce qu'ils aiment les actifs sûrs. Et puis, on a d'autres qui vont diversifier leur portefeuille. Donc, faut quand même voir aussi on peut pas non plus dire que c'est, effectivement, ça, un accès au marché financier agrandit le nombre possible de gens qui vont détenir votre dette. Mais c'est tout. Ça ne génère pas d'inflation comme une banque centrale avec la monétisation.
Vous êtes en désaccord sur le fait que ça génère ou pas de l'inflation.
Voilà. Oui, Nicolas, vous avez un baromètre pour aller dans le sens.
On a 2 minutes 30 après, on passe.
Vous avez un baromètre pour aller dans le sens de Nathalie. Comment est-ce qu'on peut mesurer si la dette, elle est appréciée ? Alors, d'abord, elle est appréciée, une dette vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que la dette allemande, c'est une dette qui a un taux d'intérêt plus bas parce qu'on pense que dans la zone euro, c'est la plus sûre. Alors, il y en a quelques-unes, mais plus mineures. Et puis, après, vous arrivez à la France, il y a à peu près 50 centimes de différence. Et puis, après, vous arrivez, je vais vite, à l'Italie, où il y a 1%, ça vous rapporte 1% de plus, pour simplifier. Puis, la dette grecque, d'ailleurs, qui a bien remonté. C'est-à-dire que le programme grec d'austérité était très, très dur, mais enfin...
Je crois que les Grecs sont repartis devant l'Italie, d'ailleurs.
Devant l'Italie, c'est intéressant. Bon. Et puis... Ça, c'est en relatif l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui peut vous dire ? Est-ce que la dette, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose ? Vous avez un baromètre formidable, traditionnel, depuis toujours, qui s'appelle l'or. Hein ? Et donc, si l'or est à son, quasiment à son plus haut, ça veut bien dire qu'il y a une méfiance vis-à-vis de l'ensemble de la dette d'État.
Souveraine.
Oui. Et ce serait pire s'il n'y avait pas un certain nombre de réglementations qui obligent des investisseurs institutionnels à en avoir massivement. Ils n'ont pas le choix. Il y a un certain nombre de réglementations qu'on fait. Et vous avez un deuxième baromètre maintenant, ça fera plaisir à Nathalie, qui est plus subtil parce qu'il est quand même, on n'a pas une expérience si longue pour savoir si ça marchera, et je ne suis pas en train de dire d'acheter du Bitcoin, mais la hausse du Bitcoin, comme vous pourriez aussi acheter des timbres-poste des actifs réels. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez soit prendre des actifs monétaires obligataires, soit prendre des actifs réels. En tout cas, restons sur l'or. Et le Bitcoin est un deuxième baromètre plus dangereux, mais enfin qui existe aussi, qui montre qu'il y a une défiance vis-à-vis de la dette, parce qu'on se dit on va refinancer, la monnaie va se dévaluer.
Dans un instant, vous réagissez sur le fait de savoir quand même si l'inflation, c'est pas le bout de l'histoire d'une monétisation. Mais merci en tout cas pour la clarté de vos explications.